Chapitre 50. Même lorsqu'ils furent à l'abri entre les murs d'Ildakar, Lila continua à courir comme si elle avait le gardien aux trousses. Le souffle court, les muscles douloureux, Banon était couvert de boue et de sang, mais il avait recouvré sa liberté. Près d'un abreuvoir à Yaxen, il se laissa tomber à genoux.
« J'ai besoin d'une pause »,
souffla-t-il. Plongeant les mains dans l'eau, il s'aspergea le visage. En partie débarrassé de son masque de sueur, de poussière et d'humeurs diverses, il soupira d'aise et ferma les yeux, puis il immergea de nouveau sa main dans l'eau, la porta à ses lèvres et but longuement. Lustré de sueur, Lila rayonnait de fierté. Naguère dans les fosses de combat, elle regardait Banon avec mépris, histoire de le stimuler. Là, il y avait de la douceur dans ses yeux.
« Tu es venu pour moi ?»
souffla le jeune escrimeur incrédule.
« C'est ça, oui, »
fit la Morassite, une main posée sur le manche de la terrible pointe douleur accrochée à sa ceinture. Taquine, elle flanqua un petit coup de genou à son compagnon.
« Allons informer les autres que tu es vivant. Quand la panthère de Nietzsche a eu repéré ce qui semblait être une prison, ils ont refusé de croire que je te ramènerais. »
Banon se leva péniblement. Sans un regard en arrière, Lila se mit en chemin au pas de course, certaine qui la suivait. Bien que fasciné par le mouvement régulier de ses hanches, le jeune escrimeur pressa le pas pour marcher à côté de sa compagne et non derrière comme un animal domestique.
« Combien de pertes chez nous ? » demanda-t-il. « Cette sortie a été un succès ? » ?»« Nous avons tué beaucoup de soldats, oui. Deux Morassites sont tombés au champ d'honneur, mais nous n'avons pas à rougir de notre comportement. »« Deux Morassites ? Lesquels ?»
Même s'il en avait voulu à ses femmes d'être impitoyable avec les futurs gladiateurs, Banon eut le cœur serré d'apprendre qu'elle n'était pas indestructible après tout.
Richia et Marla. Genda est blessée, mais elle se rétablira. Quand je t'ai perdu de vue sur le champ de bataille, j'ai...
Lila dut prendre sur elle pour continuer.
Banon, je m'excuse. Si nous nous retrouvons dans une situation similaire, je veillerai mieux sur toi.
Le jeune escrimeur frissonna en pensant au sort probable de Jed et de Brock.
Espérons que ça ne se reproduira pas.
Lila arqua un sourcil.
Le général Outros n'a pas perdu et il ne lèvera pas le siège. Très probablement, ça recommencera. Je sais, mais je ne suis pas pressé d'y être.
Alors que l'aube se ferait encore attendre des heures, Lila précéda son compagnon dans les rues éclairées grâce à la magie de transfert. À l'évidence, la Morassite se dirigeait vers la tour du pouvoir, mais qui espérait-elle y trouver si tard? Au fait, comment Nietzsche avait-elle réagi en apprenant qu'il n'en était pas revenu? En haut du plateau, Banon regarda la grande villa avec envie, comme il aurait aimé se glisser entre les draps de son grand lit dans sa chambre d'invité. Certain qu'elle ne l'autoriserait pas à aller se coucher, il suivit Lila jusque dans la salle du conseil, toujours éclairée par une belle flambée et une multitude de bougies. Elsa, Auron, Damon et Lani étudiaient une carte d'Ildakar. Surpris par cette intrusion tardive, ils levèrent les yeux avec un bel ensemble.
« J'ai sauvé Banon Farmer !» annonça Lila. « Il était dans la cabane que la panthère soupçonnait d'être une prison. »
Sortant d'une alcôve, Nathan laissa tomber le lourd grimoire qu'il portait.
« Mon garçon, tu es vivant !» Il y a tant de morts qu'on ne peut pas les recenser, mais toi, tu t'en es sorti. »
Dans l'étreinte du sorcier, Banon faillit étouffer, mais il n'osa pas protester.
« Tu es vivant !»
Lâchant son ami, Nathan recula et l'étudia de pied en cap, comme pour se persuader qu'il ne rêvait pas. Banon balaya la salle du regard. Les membres du Douma le regardaient, interloqués, mais où était donc Nietzsche? Il voulait lui dire que Mra allait bien.
C'était une rude bataille et, eh bien, sans Lila, je ne m'en serais pas sorti. Elle est revenue pour nous, Jed, Brock et moi. »
Auron avança, le visage dur, comme quand il officiait en tant qu'écorcheur.
« Tu étais avec mon fils et son ami? Nous les pensions morts au combat. »
« Non, nous étions prisonniers et le général Outros voulait nous interroger. Grâce à Lila puis à Amra, nous avons pu nous évader et fuir. Mais...
j'écoute. »
grogna Auron. Les traits tirés d'Amolgia vint se camper près de l'écorcheur.
« Et Jed ?»
Banon chercha le soutien de Nathan, mais quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas se dérober.
Nous n'étions pas loin quand quelqu'un a donné l'alarme. Très vite, les soldats ennemis nous ont collés au basque. Jed et Brock ont jugé qu'il valait mieux nous séparer. Ils sont partis chacun dans une direction et on ne les a plus revus. J'ignore s'ils ont été tués ou capturés.
Dans un silence de mort, Auron réfléchit un long moment, puis il se tourna vers les autres conseillers.
« Mon fils était un vaurien de toute façon. Qu'est-ce qui est pire, mourir au combat ou être prisonnier? Mais quand même, apprendre sa fin deux fois... »
Dame Olgia ferma les yeux et serra les poings, puis elle releva les paupières, le visage de marbre.
« On m'a annoncé la mort de Jed il y a deux nuits. Allons, nous avons une ville à sauver. »
Nathan gratifia Bannon d'une autre accolade.
« Tu es dans un sale état, mon garçon. Va te laver, mange à ta faim, puis dors un peu. Après, nous voudrons un rapport complet sur le camp ennemi. »
Le jeune escrimeur acquiesça.
« Wenichi, j'aimerais lui dire que j'ai survécu. »«
Elle est partie, mon garçon. »
« Comment ça partit? Tu veux dire que... »«
Non, bien sûr. En ce moment, elle doit être à Tanimura. Pour avertir Richard, elle a voyagé dans la Slif. »
Toujours très protectrice, Lila posa une main sur l'épaule de Bannon et le poussa vers la sortie.
« On parlera de tout ça plus tard. Bannon Farmer est mort de faim et cuit de fatigue, mais je m'occuperai de lui. »
Le jeune escrimeur apprécia cette intervention. Épuisé, il n'était plus très sûr de penser clairement. D'un pas hésitant, il se laissa guider par la Morassite. Dans la grande villa, jadis occupée par Maxime et Thora, les anciens esclaves avaient investi la plupart des chambres. Ouvrant toujours le chemin à Bannon, Lila interpella deux femmes qui remontaient un couloir.
« Il faut nourrir cet homme. C'est un des héros d'Ildakar. »
Dès qu'elles eurent reconnu Bannon, les deux anciennes esclaves se précipitèrent. Une fois dans sa chambre, le jeune homme regarda le lit, la petite table, l'armoire, la coupe de fruits posée sur un guéridon depuis des jours, et il eut le sentiment d'être au paradis. Avisant deux mandarines encore comestibles, il en saisit une et entreprit de la peler. Prévenante, Lila la lui prit des mains et la coupa en quartier avec son couteau. Ravi par le goût sucré, Bannon ferma les yeux et soupira d'aise. Infatigable, Lila dénicha un carré de tissu, le trempa dans une aiguière et commença à nettoyer le visage du jeune homme, en frottant si fort qu'il la crut décidé à effacer aussi ses taches de rousseur. Après avoir tamponné une coupure sur sa lèvre, elle passa à son cou. À son expression, Bannon eut le sentiment qu'elle préparait une bête primée pour un concours ou pour la présenter à un marchand tatillon.
« J'aimerais mieux me coucher et dormir. Pas encore. » Tu viens de subir une épreuve aussi dure qu'un combat dans l'arène. Tu es sale, les muscles durs et noueux. On ne s'endort pas dans cet état. »
Les deux femmes entrèrent, portant sur des plateaux un véritable festin. Du raisin, du fromage, du pain un peu sec et des tranches froides de yaksen. Bannon en eut aussitôt l'eau à la bouche. La mandarine n'avait été qu'un amuse-gueule.
C'est vrai, ce n'est pas encore le moment de dormir.
Les servantes s'attardèrent, demandant s'il fallait autre chose. D'un geste, Lila les congédia. Assis au bord du lit, Bannon se goinfra de pain, de fromage et de raisin. Pendant qu'il mangeait, Lila tenta de lui enlever sa chemise, mais elle collait à sa peau à cause de la sueur et du sang. Radicale, elle la découpa avec son couteau. Surpris, Bannon sursauta, mais elle haussa les épaules.
De toute façon, elle était fichue.
Torse nu, Bannon s'attaqua à une tranche de viande. Tout ce qui l'intéressait encore en ce monde. La chemise ne faisant plus obstacle, Lila nettoya le dos puis la poitrine de son compagnon. L'estomac plein, Bannon se détendit enfin. Quelques heures plus tôt, il attendait son exécution et là... Repoussant les plateaux, il soupira tandis que Lila lui massait le dos puis descendait le long de sa colonne vertébrale. D'habitude, les Morassites faisaient atrocement souffrir leurs gladiateurs. Là, c'était exactement le contraire.
« Tu n'es pas doué que pour le combat, Lila. » Ça me réjouit. J'ai bien des talents, comme tu le sais.
Tirant Bannon en arrière, Lila força le jeune homme à s'étendre, puis elle entreprit de lui retirer ses bottes et son pantalon.
Tu fais quoi exactement? Je suis mort de fatigue. Tu t'es bien battu. Moi, je m'inquiétais pour toi et je suis heureuse que tu ne sois pas mort. Bref, je veux te montrer ma gratitude.
Merci, mais ce n'est pas indispensable.
Accepter un refus, Lila?
L'honneur l'exige, mon gars.
Après l'avoir presque tué dans les fosses de combat, Lila avait pris Bannon pour amant, une récompense à laquelle il ne pouvait se soustraire. En fait, elle se servait de lui et ne lui laissait pas le choix.
Tu penses avoir la force de me résister?
Lila, je ne suis plus ton prisonnier.
D'accord, mais tu es toujours un homme et je le sens.
Si vite qu'il la vit à peine bouger, Lila défit la bande de cuir qui couvrait ses seins.
Dans ton état, je n'aurais pas besoin de te forcer.
Tandis qu'elle se mettait à califourchon sur lui, Bannon se souvint des trois merveilleuses jeunes femmes de surplomb du monde, Audrey, Laurel et Sage, ses premières maîtresses. Des nuits durant, se relayant auprès de lui, elle l'avait initié au plaisir. Hélas, la magie aberrante de la maîtresse de la vie en avait fait des monstres. Le contraire pouvait-il se produire? Une moracite d'acier se transformant en une douce et sensuelle amoureuse? Alors que Lila se penchait sur lui, l'odeur délicieuse de son corps féminin l'enivrant, il se rappela qu'elle l'avait torturé dans les fosses, ne reculant devant rien pour le forcer à aller toujours plus loin. Naguère, elle le terrifiait. Aujourd'hui, quand il la regardait, elle semblait plus chaleureuse. Quelque chose avait changé. Quand elle le touchait, c'était avec une sorte de tendresse. Timidement, il lui caressa le dos et sentit sous ses doigts les runes gravées sur sa peau. Un instant, il eut l'impression d'être un aveugle en train de lire un grimoire en relief.
« Je t'ai sauvé, mon gars. Tu me dois une récompense. »
Comment s'insurger contre une telle logique ?